France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Cette édition des carnets va flâner entre le département des Landes et les petites routes de la campagne sur lesquelles circulent des services de nouvelle génération. Avant de vous donner quelques mots à ce sujet, je voulais penser et partager une pensée avec vous, habitants des Landes, qui avaient été bien malmenés par les intempéries le week-end dernier. Donc on va, à propos des nouvelles générations qui circulent, on va présenter le numéro d'hiver du magazine Village, qui consacre un dossier complet dans lequel vous allez découvrir un étonnant restaurant, par exemple gastronomique, aménagé dans un bus à étage, ou une école de musique et de batterie installée dans un camion qui sillonne les routes du Calvados. Il y a même un musée ambulant. Enfin bref, vous allez trouver dans cette édition du magazine Village un certain nombre d'initiatives qui sont très très originales. Mais tout d'abord, dans les Landes, entre Hossegor et Saint-Jean-de-Luzne, nous partons à la découverte du local designer Océan.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Marie-Barbara Mollès-Pontaillé, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Vous êtes créatrice de bijoux, je donne le nom by LTE. Et alors je me suis renseigné, oui. LTE c'est la taillère électrique.
Voilà, mais c'était un peu long, donc il y a quelques années j'ai raccourci le nom.
Et quel type de bijoux vous réalisez, à partir de quels matériaux?
Je travaille avec un artisan qui travaille le laiton doré à l'orfin. J'ai travaillé pendant quelques années le cuir et puis finalement... je suis partie sur des bijoux beaucoup plus épurés, en métal uniquement.
Et votre atelier est à Hossegor?
Alors j'habite un tout petit village qui est derrière Hossegor et qui s'appelle Saubion.
Et paraît-il que c'est le paradis là-bas?
C'est pas mal, nous sommes enviés, au pays des vacances.
Oui. On se retrouve dans un milieu qui est un territoire qui est très fréquenté, en particulier l'été, ce qui doit être le moteur de l'économie artisanale, ça veut dire que le reste du temps c'est beaucoup plus difficile.
Alors oui, il y a des périodes un peu plus difficiles, mais ça permet aux artisans, comme moi et bien d'autres, d'être dans les ateliers et justement de travailler avec l'objectif de l'été, d'être beaucoup plus visible et, pendant les mois d'été. Voilà, donc on a le temps aussi de réfléchir sur ce que l'on fait et de bien le faire.
Avec d'autres, donc, il y a 5 ans, vous avez fondé le collectif local designer Océan.
Tout à fait. Donc c'était pour avoir une meilleure visibilité et de qualité. J'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre une jolie boutique qui est en plein centre d'Hossegor. Et du coup, autour de moi, j'ai rassemblé d'autres artisans, créateurs ou designers avec qui je m'entendais déjà pas mal. Voilà, parce que le collectif, il faut quand même qu'il y ait une osmose entre les gens, de la confiance... voilà, essayer d'aller dans la même direction.
Quand vous retrouvez vos réalisations, vos productions, vos créations dans la même enceinte, le même lieu, vous vous mettez en concurrence les uns les autres quand même.
Alors justement, c'est là où j'interviens et où mon travail est intéressant, c'est que j'essaie de réunir divers univers. Donc de la maroquinerie, du textile, du design textile, de la décoration. Bon, par exemple, je suis la seule à faire des bijoux au sein du collectif.
Vous dites que vous défendez une démarche écologique. En quoi est-elle écologique, votre démarche?
On va dire qu'on tend vers une démarche écologique, donc on essaie de faire le mieux possible au niveau du sourcing de nos matières premières. Par exemple, la personne qui fait la maroquinerie travaille avec des tanneries qui sont dans le Pays Basque. Une autre des petites marques qui fait du textile travaille avec un atelier familial qui est... vers Castres. Voilà, on essaie vraiment de faire travailler, soit on réalise dans nos propres ateliers, et si c'est en production, d'être le plus responsable et le plus local, si on peut, possible, et de travailler avec d'autres artisans qui eux-mêmes sourcent les produits et travaillent en petite quantité, voilà, voire produits uniques. De faire le mieux possible. On n'est pas encore parfait, mais on y tend.
Et alors, Marie-Barbara, vous nous avez parlé d'une boutique à Hossegor. Il y en a une autre à Saint-Jean-de-Luz. La particularité, c'est qu'elles sont éphémères. Donc, elles durent que sur une seule période, une moyennement longue période de l'année. L'hiver, c'est fermé.
Oui, 7 mois pour Hossegor et celle de Saint-Jean-de-Luz sera ouverte jusqu'au 31 décembre.
Et un peu sur le principe des drives fermiers, c'est vous qui gérez l'organisation, l'ouverture, chacun un tour de rôle des boutiques.
Tout à fait. Donc on met en place des plannings sur des périodes de 2 mois à peu près. Et donc tout le monde vient travailler parce que l'idée c'est vraiment de responsabiliser les créateurs qui s'aguerrissent en vente, qui soient proches de leur clientèle pour pouvoir justement améliorer leur collection, leurs produits, avoir de nouvelles idées, mais surtout le relationnel, vraiment l'humain, la dimension humaine. Les gens qui achètent quelque chose, ils rencontrent réellement le créateur. Mmh. C'est ce qui est intéressant et ils s'approprient d'autant plus le produit et ils deviennent nos ambassadeurs. Voilà, et ça c'est très important.
Grâce au local designer Océan, et allez voir nos pages, vous allez trouver un lien avec ce collectif et aussi avec les bijoux de Marie-Barbara, les bijoux by LTE, la théière électrique. Merci Marie-Barbara.
Je suis ravie, merci à vous et à très bientôt dans les Landes.
France Inter, carnet de campagne.
Ce n'est pas tous les jours que les carnets mettent en avant des initiatives prises par une assemblée départementale. C'est une manière aussi de compenser des choses, l'on ne dit pas, parfois avec des critiques sur la puissance publique, mais c'est intéressant lorsque la puissance publique, comme on l'appelle, répond aussi à des besoins ou sollicite ses citoyens, ses habitants et les particuliers. Celle du Conseil départemental des Landes mérite d'être donc signalée. Ici, elle repose sur cette citation de son président. Il est plus que jamais nécessaire de placer les citoyens au cœur de la construction et de l'évaluation des politiques publiques. Au-delà des mots, il y a les faits, illustrations, avec la création pour la première année d'un budget participatif citoyen dont les résultats seront donnés aujourd'hui, ce soir, à 19h, en direct sur la page Facebook du département. Ce budget est d'un montant d'1,5 million d'euros et pour cette première édition, 959 idées ont été déposées, 367 étaient éligibles, dont 38 déposés par des jeunes, parce qu'il y avait aussi une rubrique jeunes. Pour être éligible, le projet devait servir l'intérêt général ou relever des compétences du département. Vous savez, aujourd'hui, c'est la solidarité, l'éducation, la jeunesse, les sports, l'association culture, patrimoine, le numérique et le développement local. Il n'y a pas l'économie, puisque l'économie relève des compétences de la région ou des communautés de communes. La deuxième phase consistait à soumettre au vote public l'ensemble des idées retenues. Chacune d'entre elles, une fois sélectionnée, recevait un kit de communication afin de faire connaître ses ambitions. C'est donc ce soir que nous connaîtrons les projets lauréats de cette première édition. À noter que 10% des sommes allouées sont réservées donc à des projets déposés par les jeunes landais. Vous allez trouver un lien avec la page Facebook du département des Landes à nos pages d'émission. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village, le dernier numéro qui vient de paraître est celui d'hiver, la saison hivernale. Mais on se balade avec vous, pas uniquement dans l'hiver, mais dans les régions, avec un dossier que je trouve absolument génial. Le succès de l'itinérance, des cafés, des restos, des épiceries, des ciné, mais on va donner des exemples. C'est absolument merveilleux ce qui s'invente à partir de l'itinérance.
Oui, ça marche et on pense tout de suite à l'épicier alors qu'il y a énormément de métiers aujourd'hui qu'on peut faire en itinérance. On peut gérer un cinéma, un resto gastronomique, être prof de musique en itinérance, ouvrir un musée. C'est aussi tous ces exemples-là qu'on a voulu montrer. Ça répond à deux enjeux. Un enjeu fort de mobilité dans les territoires ruraux aujourd'hui, puisque 15% des ruraux n'ont pas de voiture. Faut quand même avoir ça en tête. Et puis, plus de 30% souffrent de vulnérabilité énergétique, hein, selon une étude de l'INSEE de 2015. Quand on habite à plus de 5 km des commerces, c'est en gros 120 euros de carburant par mois. Donc, c'est énorme. Donc, il y a un vrai enjeu de mobilité pour les ruraux. Et ces services itinérance, c'est une bonne réponse. Et puis, ça permet à des créateurs d'activités de se lancer avec quand même moins de risques. Souvent, c'est moins cher qu'un commerce traditionnel.
Ouais, le dossier spécifie et mentionne quand même quelques informations importantes parce qu'il y a des règles à suivre. Les activités itinérantes, comme vous l'écrivez, sont soumises à des règles. On doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. L'enregistrement ne coûte pas cher, mais on doit être titulaire d'une carte de commerce ambulant que délivre le centre des formalités des entreprises. Et quand on veut s'installer sur une place, Sylvie, parfois la commune peut demander une redevance.
Oui, elle peut demander une redevance et puis elle n'accepte pas toutes. Hein. Parfois aussi, la préfecture peut refuser. Donc forcément, on s'installe pas comme ça n'importe où sans avoir l'autorisation de la mairie. Il faut aussi souvent un compteur provisoire, un compteur électrique. Ça coûte cher, hein. Ça peut aller jusqu'à 1 500 euros dans certains cas. Donc il faut pas imaginer qu'il n'y a pas de dépenses du tout. Bon, il y a l'investissement dans le matériel, dans le véhicule, qu'il faut faire réviser. Et c'est parfois très lourd quand on a un super lourd, par exemple, hein, dans le cas du restaurant. Ça peut coûter aussi de bloquer le camion hein, pendant une période. Donc tout ça est à prendre en compte, mais néanmoins, souvent, le pari est gagnant.
Quelle merveille, le 26 bus. Alors il s'agit, c'est une belle histoire que vous nous rapportez dans le dossier, Charles et Mélina, qui sont dans le Puy-de-Dôme, qui ont travaillé dans les plus grands restaurants d'Auvergne, ont décidé de s'installer. Il y avait plusieurs communes qui se proposaient de les accueillir. Et puis ils se sont dit, si on était justement, comme vous le disiez, à l'égard d'une clientèle rurale ou éloignée des bonnes tables, si on était itinérant, ils ont acheté un bus à étage qu'ils ont réformé, 490 000 euros d'investissement quand même. Il y a une liste d'attente de 350 personnes.
Oui, et puis on peut attendre un an pour avoir sa réservation au restaurant. C'est un succès incroyable d'entreprise, en fait. Parce que c'est un côté aussi magique, hein, ce bus 26, avec une très bonne gastronomie. Alors souvent, ce sont des services qui offrent un plus, un aspect convivial qui est indispensable à la réussite, que ce soit pour monter une épicerie vrac ou donner des cours de batterie, hein, comme on l'a aussi dans ce dossier. Il faut qu'il y ait un supplément d'âme pour que ça fonctionne.
Ah oui, le cours de batterie, c'est le drum truck. Allez sur le site de Jean-Philippe Barbato, que vous avez rencontré, parce qu'il est à côté de chez vous, dans le Calvados. Il est musicien, il est percussionniste, entre autres, et il trimballe ses percussions et ses batteries dans son petit camion. Il s'arrête aussi dans les écoles, mais il s'arrête aussi dans les EHPAD. Il fait des choses merveilleuses, cet homme.
Oui, et ce qui est bien, c'est que ça évite l'élitisme, parce qu'il est à mi-temps prof au conservatoire, mais il dit, en fait, j'y avais une partie des élèves auxquels je n'avais pas accès, parce qu'on n'envoie pas son enfant au conservatoire. Une sorte de résistance sociale. Et il dit, là, quand j'arrive, je fais les mêmes cours qu'au conservatoire, mais j'arrive dans le village, avec mon camion, les habitants klaxonnent et m'envoient leurs enfants. Ils n'ont plus peur de franchir cette barrière. Donc ça ouvre aussi la culture à tout un public qui ne se donnait pas le droit d'aller au conservatoire.
Ça, c'est dans le dossier donc du dernier numéro d'hiver de Village Magazine. Vous y trouverez, vous l'avez cité, le musée, un musée dans un bus. Ça peut paraître incroyable et pourtant, l'affaire est réelle, incroyable mais vrai. Le bus musée de Collines en Ariège. Là aussi, il y a toujours des gros investissements. Il faut savoir, pour l'aménagement de ce matériel roulant, c'est assez exceptionnel. Et paraît-il, chère Sylvie, que le prochain rendez-vous avec vous sera sur votre invitation dans un estaminet.
Tout à fait, on se retrouvera dans l'estaminet des Flandres pour une prochaine rencontre.
Et avec plaisir. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on remercie aussi nos confrères de France Bleu Caen en Normandie qui nous ont permis de dialoguer en duplex avec vous. À très vite, Sylvie. Merci.
À bientôt, Philippe. Merci.
Villagemagazine.fr pour l'adresse si vous voulez suivre en détail ces réalisations un peu folles. On aime bien dans l'ancien car scolaire Christine Brett qui a créé un café associatif qui sillonne les routes du Beaujolais. Le comptoir des collines, c'est drôlement chouette. C'est une demande de coup de pouce plutôt exceptionnelle que j'ai à partager avec vous. Comme on a un petit peu de temps, j'en profite. Il émane de Jean-Pierre depuis ses chaumières de Kerguen. Nous sommes dans le Finistère. Jean-Pierre a atteint un âge raisonnable pour céder son domaine, fruit de 22 ans de travail acharné, pour redonner vie à un mot dans un environnement, pour ainsi dire, paradisiaque. Kerguen, entre terre et mer, à moins de 30 minutes de Quimper, de Morlaix, de Crozon, de Brest. Le travail de reconstruction du hameau en ruine a été titanesque. 5 maisons ont retapé, un hangar de 350 mètres carrés, une bâtisse de 35, aujourd'hui local de documentation, 12 000 mètres carrés de potager, de verger, de poulailler et autres jardins, parcelles de jardins individuels. Désormais, Kerguen, avec ses gîtes et chambres d'hôtes, est composé de 15 chambres avec salle de bain, 5 cuisines, avec salon et salle à manger. Je vais peut-être pas vous faire tout le détail, mais le décor est idyllique. Il y a plus qu'à, comme on dit, c'est-à-dire il reste à trouver un repreneur ou une repreneuse de cette aventure, comme l'écrit Jean-Pierre, donc qui veut passer le flambeau pour la gestion de ces chaumières de Kerguen. Kerguen, ça s'écrit K-E-R-G-U-A-N. Vous avez trouvé un lien aussi, les chaumières de Kerguen.com pour l'adresse.